Il est à présent l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée sur les ondes de Radio Escapade en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors les Fatales Picard, ils ont fait... Il y a une bande dessinée qui s'appelle Les Fatales Picard, faite par Juan et avec la complicité des Fatales Picard. Allez. Alors on va pas tout à fait parler des Fatales Picard, ça avait été fait à la sortie du livre... Mais je vais plutôt évoquer un sujet plus grave. Depuis quelques années, les gestes pour que cesse l'impunité de l'inceste se multiplient. Les gestes littéraires. Seuls 10% des agresseurs des 160 000 enfants victimes de violences sexuelles sont condamnés. Violette Bernard et Camille Royer ajoutent leur écriture et leur sensibilité à ce cœur puissant. Loup des Bois est un récit d'une amitié entre deux filles, puis deux femmes. Une amitié pour aider à supporter, à dire, à demander réparation. Nous sommes avec Violette Bernard vers 14h10 pour qu'elle partage ses questions et ses processus d'écriture pour Loup des Bois. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y avait de prévu un entretien également avec Camille Royer, qui est dessinatrice, qui vit au Japon. Et puis, ben, on n'a pas pu finaliser cet entretien. Donc, l'émission se fera avec Violette Bernard. Ça sera Melba qui sera l'invité musical avec trois morceaux, dont deux morceaux ont été écrits spécifiquement pour la bande dessinée Loup des Bois, écrit par Violette Bernard, justement. Bref, avec une annonce toute récente, c'est le décès de Marjane Satrapi à l'âge de 56 ans. Je consacrerai une partie de l'émission du 11 juin à cette autrice qui a impacté, qui a marqué définitivement l'histoire de la bande dessinée. Une autre brève qui concerne les financements participatifs pour la bande dessinée. J'ai évoqué dans la chronique du dessin d'hier celle des éditions Delirium qui à chaque fois remporte des succès assez impressionnants. Une autre plus discrète mais qui est aussi essentielle, c'est celle des éditions Ad Hoc avec une demande de financement qui a abouti, qui a permis l'édition d'un premier livre avant qu'il y ait une sortie en librairie pour le mois de septembre. C'est un livre sur René Follet et toutes les illustrations qu'il a faites pour un supplément d'un livre de voyage, d'une revue de voyage sur l'Afrique. Alors René Follet, c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose, qui est un illustrateur assez remarquable, ne serait-ce que par l'intensité de sa peinture et puis de sa mise en image. Et il avait aussi fait de la bande dessinée, donc fait se confronter le temps du récit et celui de sa peinture. Un des auteurs les plus influencés et marqués par René Follet, c'est Emmanuel Lepage. Il en avait parlé à plusieurs reprises dans les entretiens que nous avions faits ensemble. Et il était très, très ému par cette intensité picturale de l'œuvre de René Follet. Donc, grâce au financement participatif, on aura au mois de septembre, et je présenterai plus longuement ce livre à ce moment-là, sur toutes les illustrations faites pour le supplément Caravane de cette revue sur l'Afrique. Donc, Ben, on écoute les moustiques. Alors, cette émission, les livres présentés dans cette émission auront tous en lien cette puissance intérieure qui parfois nous dévore, et les trois livres vont être dans cette intensité-là. Je vais commencer par « Jusqu'à la nuit tombée », avec cette, ce récit qui est un récit sur une absence, une disparition, et sur le questionnement du personnage principal qui va revenir sur le lieu où il a passé de très nombreuses vacances enfant, et où avec sa sœur ils avaient des jeux fréquents ensemble, et un jour elle va disparaître. Il revient pour répondre à un besoin puissant. Voilà ce que dit le résumé du dossier de presse. Que feriez-vous si vous n'aviez pas la réponse à une question qui vous hante depuis 25 ans ? Suivant les traces du passé traumatique de leur héros, les auteurs dessinent un récit puissant mêlant ombre et lumière. Traumatisé par un événement récent qui en réveille un autre de son passé, David revient dans le village qui a vu disparaître sa sœur Axel. Entre passé brûlant de l'été 97 et présent austère de l'automne 2022, David erre dans ses souvenirs pour tenter de répondre à la question qui revient le hanter après toutes ces années. Que s'est-il passé à ce moment-là, en 1997. Alors, c'est un livre surprenant, parce que lorsque vous le feuilletez, il y a une mise en image, un lettrage, une façon de mettre en scène qui est assez inhabituelle, qui a un côté très posé, scolaire même parfois, avec donc un dessin précis. On est sur une sorte de représentation. Alors, pas un hyper-réalisme, mais réaliste, avec les proportions de réaliste, donc de la représentation des personnages. Et puis, ce dessin, il n'est pas très séducteur. Il a une sorte de fragilité, de façon d'évoquer une sorte d'immaturité. Il se superpose avec un dessin qui manquerait de maturité. Pourtant, le dessinateur, Quentin Héroguer, est un artiste qui a donc choisi cette mise en image. Il est diplômé de l'école de Saint-Luc, donc il est parfaitement à même de choisir. Il n'est pas simplement sur la suite d'un style comme certains auteurs peuvent s'y enfermer. Donc, on est avec ce parti pris de l'artiste de choisir de représenter les choses ainsi. Il y a également dans l'écriture une sorte d'écriture avec des déliés, une écriture manuscrite comme une calligraphie, comme celle qu'on pouvait faire à l'école. Ça donne un côté un peu décalé par rapport à l'intensité du récit, par rapport à ce traumatisme que vit David dû à l'absence de réponse sur les raisons de la disparition de sa sœur Axel. Lorsqu'il revient dans ce village, eh bien, des souvenirs vont remonter, les rencontres avec les personnes qui étaient déjà là au moment de son enfance vont être présentes et vont ramener et alimenter ces souvenirs et cette incompréhension face à la disparition d'Axel. Alors, la mise en couleur, qui est une mise en couleur très animée, à l'aquarelle, avec donc des cases qui sont vivantes, mais qui est aussi relativement sage, dans la mesure où on va avoir des feuillages, de l'herbe bien verte, avec quelques nuances apportées par l'aquarelle, mais aussi un ciel bien bleu quand on est en extérieur. Parfois animé avec un ciel plus nuageux, mais ça reste relativement sage. Pourtant, il y a un côté très intéressant, très fort dans ce livre, c'est la façon d'utiliser les flashbacks. Il n'y a pas de marque graphique importante pour bien spécifier les deux périodes. Il y a simplement la taille de David. Lorsqu'il est dans le flashback, on va le voir enfant en train de vivre avec sa sœur, avec différents personnages, les parents, les amis, et jusqu'au moment de sa disparition. C'est important, cette façon de gérer les flashbacks, parce que ça donne une fluidité dans le récit où on n'a aucun souci à repérer les différentes époques, les moments de l'enfance et ceux où David revient sur les lieux de son enfance. Et c'est important parce que là, il y a une continuité qui va se faire où on va suivre finalement comment David, le personnage principal, va gérer ses découvertes, va gérer et se confronter à ce qu'est ce traumatisme qu'il a enfoui pendant des années. Ça reste donc un livre étonnant, surprenant par la qualité du récit, par la façon dont il est traité, qui me laisse quelques réserves sur le plan du découpage, de la mise en image, du dessin, mais cette collection dans laquelle se trouve ce livre, La case en moins, est une collection importante, qui fait vraiment collection, où on a des œuvres où cette question de l'intériorité est omniprésente. Jusqu'à la nuit tombée est un récit écrit par Philippe Labarry et mis en image par Quentin Héroguer. Les 96 pages de ce livre sont au prix de 18,50 € et le livre a été imprimé en Belgique. Alors, musique, et pendant ce temps-là, c'est bon, on y va. Alors,
s'être trop serré, qui pourra croire à mes peurs ensevelies sous les grumes, mes pieds, mes genoux, mes mains engloutis sous la brume. Je suis pauvre de rien, et larmes assises brûle mon corps trop blanc pour le soleil. J'ai des ronces lisses en travers de la gorge. Mon ami est venu, sa main tiède dans la poche. Elle se tient près de moi, mes pieds, mes genoux, mes mains, mes pieds, mes genoux, mes mains, mes pieds, mes genoux, mes mains, appuyés contre les siens.
Si la littérature n'a pas sauvé Neige Sin, Triste Tigre 2023, nous avons envie de croire, par la multiplicité de nos gestes, que nous défrichons un terrain qui jusqu'alors demeurait la conquête exclusive des agresseurs. Nous délivrons des voix, nous formons un cœur dont la puissance grandit livre après livre, film après film, poème après poème. C'est ce texte qui introduit la bibliographie des œuvres littéraires liées à l'inceste situé en fin de livre. Loup des Bois est un récit à hauteur d'enfants, d'adolescentes, de jeunes filles puis d'adultes. Loup et Yoïka sont deux amies inséparables. Elles vivent de chaque côté d'un bois relié par un sentier. Loup cherche à dire ce qui la hante sans parvenir à être écoutée. Écrit sur le rythme des saisons, enfant en hiver, adolescente au printemps, et l'été verra éclater le désir, l'incompréhension et la colère. En automne, l'inceste sera nommé et la lutte démarre. L'écriture dessinée de Violette Bernard et Camille Royer est celle d'une même voix. Dialogue, récitatif, dessin, découpage sont intimement unis. Elles répondent ensemble à ces questions de représentation imposées par le récit. Comment dessiner le monde adulte vu à hauteur d'enfant? Comment écrire ce poids des actes passés, toxiques à jamais? Comment représenter l'immobilisme social pour préserver les agresseurs et laisser des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants, sans réponse, dans une fatalité morbide, sans même imaginer une quelconque réparation? Loup des Bois répond à chacune de ces questions avec une écriture dessinée comme une évidence. Nous sommes avec Violette Bernard, scénariste, pour qu'elle nous invite, pour qu'elle nous fasse découvrir ces processus de création. Bonjour Violette Bernard.
Bonjour.
Alors, comment s'est mis en place l'écriture de Loup des Bois et comment travaillez-vous avec Camille Royer, puisque c'est votre deuxième livre,
oui,
ensemble?
Oui, déjà, je vous remercie pour cette analyse de notre livre. En effet, avec Camille, on a travaillé de façon très intimement liée et très étroite sur ce deuxième livre ensemble, puisque dès l'écriture, je savais que ce livre se ferait avec Camille, ce qui n'était pas le cas pour Triso Tornado, notre première BD ensemble. Et ça change tout. Ça change tout d'écrire à destination d'un dessin qu'on connaît, d'un style qu'on connaît et des possibilités de dessin qu'on commence déjà à imaginer. Ce qui fait que dans la phase de création de la première année, alors il faut que je fouille dans mes souvenirs parce que c'est une BD que j'ai écrite entre 2021 et 2023. Ça commence à dater un peu pour moi. Mais pendant la première année d'écriture, Camille était présente, on me donnait un rendez-vous mensuel, elle me donnait des retours sur le scénario. Et puis ensuite, elle a commencé les dessins du storyboard, donc du brouillon de la bande dessinée, alors que je n'avais pas terminé le scénario. Ce n'est pas très courant dans la bande dessinée, mais là, on avait vraiment envie de travailler comme ça, de façon à mélanger vraiment nos intentions.
Alors, il y a un thème très fort qui revient de plus en plus régulièrement et heureusement. Et comment se fait l'écriture et comment êtes-vous arrivé au ton de ce livre avec une parole qui est à la fois en retenue à l'image de ce que vit Lou et comment elle va arriver à se libérer. Mais il y a un ton qui est tout le temps très juste. Comment s'est mis en place ce résultat?
En prenant beaucoup de temps, peut-être. En fait, d'abord, pour écrire sur l'inceste, il faut que ce sujet soit viscéralement en nous. Qui, pour moi, en fait, j'ai le même statut dans la vie que mon héroïne Yuika. C'est-à-dire je suis amie de plusieurs personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. qui fait que ce statut-là m'a donné le besoin d'écrire ce livre et surtout de l'écrire du point de vue de l'ami. Je me sentais pas légitime ni capable de prendre la parole de la personne victime. Il y a pas mal de témoignages qui sont sortis ces dernières années sous la forme de romans. Hein. Effectivement, vous avez cité Neige Sino, mais plus récemment, il y a des hommes aussi qui ont publié des livres, Romain Lemire ou Frédéric Pommier. Tous ces livres émanent de personnes victimes qui témoignent de manière assez brute et crue des actes qu'ils ont subis. Moi, les actes, je ne les ai pas vécus, mais ils m'ont... comment dire, traumatisé par rebond. En fait, quand vous avez un ami qui vit quelque chose d'extrêmement douloureux, vous êtes un petit peu blessé aussi. Pas autant, bien sûr, mais un petit peu. Donc, il fallait que j'écrive depuis cette place-là. Et après, pour le ton, à un moment, avec Camille, on s'est mis d'accord sur le fait que nous étions toutes les deux personnes pudiques et qu'on aimait aussi écrire pour la jeunesse. Et on avait envie que ce livre puisse être lu par des adolescents ou des jeunes personnes. Donc ça a été aussi, ça nous a orientés dans la manière de faire.
Violette Bernard, à quel moment le dessin intervient et comment le fait d'avoir ces textes, dialogues, récitatifs, pensées et le dessin, comment ça fait bouger l'un et l'autre?
En fait, le scénario n'était pas figé parce qu'il y a eu ce processus de création en commun, avec beaucoup d'allers-retours entre nous. J'écrivais sous forme de scénario, hein, donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop, peut-être on peut dire que ça ressemble à un texte de théâtre. Avec quand il y a des dialogues, on les met sous forme de dialogues. Et puis, c'est quand même une BD qui est assez silencieuse. Donc, il y a pas mal de scènes qui sont juste décrites dans ma forme de scénario. Et ensuite, Camille me répondait en storyboard. Il me permettait de réajuster l'écriture au besoin et de vérifier si ça marchait et d'ajuster ensuite ce qu'on allait laisser en texte à lire, en dialogue ou en récitatif. Voilà. Donc, c'est vraiment une création...
Alors, j'ai cité le texte qui se trouve juste avant la bibliographie, est évoqué ce principe du cœur de l'ensemble des gestes littéraires qui sont faits. Quelle place vous vouliez avoir, vous, dans cette situation scandaleuse qui est aujourd'hui que, comme le dit Édouard Durance dans son texte 160 000 enfants, eh bien, il y a un système qui se met en place pour créer une sorte d'impunité.
Oui. Peut-être que je suis portée par la conviction que plus on sera nombreux et nombreuses à écrire sur ce sujet, chacun à sa manière, plus nous aiderons notre société à sortir de la sidération. Et je crois que ça frémit. Je crois que ça marche un petit peu. Mais il faut être très nombreux pour ça. C'est pas juste un livre qui peut avoir de l'effet. Mais moi je crois quand même au pouvoir de la fiction, au pouvoir de la littérature. Je suis persuadée qu'elle en a un. Pouvoir de la poésie, du dessin. Et c'est une volonté peut-être un peu idéaliste, mais quand même chevillée au corps. Qu'on va parvenir tous ensemble à faire bouger un peu les lignes. Alors, on entend beaucoup d'actualités sinistres liées aux abus sexuels faits aux enfants en ce moment dans nos médias. Alors, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant, hein, c'est qu'on les traite d'une manière un petit peu différente. Il y a aussi une commission parlementaire sur le traitement judiciaire de l'inceste qui, je l'espère, fera bouger les choses. Voilà, je m'inscris dans tout ça, mais à ma manière, c'est-à-dire une écriture qui n'est pas du côté du documentaire, qui n'est pas du côté du militantisme, qui cherche plutôt l'émotion, le poème, l'indicible. Et c'est comme ça que je fais ma part. Voilà.
Violette Bernard, vous avez évoqué tout à l'heure une proximité avec des personnes qui, comme Lou, ont été victimes. Est-ce que vous avez senti le besoin de leur présenter le récit avant de le finaliser? Comment s'est passé ce moment où le scénario est complet, où le storyboard est précis? Quelle émotion avez-vous eue à ce moment-là?
Eh bien, à l'origine, je voulais vraiment écrire l'histoire d'une amie, une amie d'enfance à qui c'est arrivé. Et cette amie m'a d'abord donné son accord pour qu'on écrive son histoire. Et puis très vite, elle s'est rétractée en disant que ça allait être trop douloureux pour elle, qu'elle préférait rester à l'abri et non pas réactiver toutes ses angoisses. Décision que j'ai parfaitement respectée. Elle m'a quand même un peu accompagnée les premiers temps en m'envoyant des ressources documentaires, en se montrant présente. Et puis petit à petit, nos échanges se sont espacés et je me suis éloignée de cette histoire vraie pour partir dans la fiction. Et puis je me suis nourrie d'autres témoignages, d'autres amis. Je me suis nourrie aussi de témoignages que j'ai écoutés dans des podcasts ou lus dans des livres. Et puis je fais la cuisine, si on peut dire. Je mélange un peu tout ça pour inventer une nouvelle histoire. Mais quand même, je cherchais à être au plus près, au plus juste de ce qu'ont vécu ces personnes-là, mais sans jamais les mêler à l'écriture. Il fallait qu'à un moment, je sois dans la liberté de création. Et pour Camille Royer, c'est un peu la même chose. Elle a le même statut que moi dans la vie, être amie de personnes victimes. De toute façon, quand on connaît les chiffres, hein, vous l'avez énoncé tout à l'heure, le texte d'Edouard Durand évoque les 160 000 victimes par an. Donc il y a quand même de grosses probabilités pour que nous connaissions tous quelqu'un qui en est victime ou que nous soyons victimes nous-mêmes. Donc Camille a le même statut que moi et de la même manière, je ne crois pas qu'elle ait communiqué au fil de la création le livre à ses amis qui étaient concernés par le sujet. Je crois que c'est plutôt une sorte de cadeau qu'on a travaillé dans l'intimité, dans le secret, et puis on l'a livré quand il était fini. Voilà. Et puis les premiers retours de lecture nous parviennent et on est très émus parce qu'on s'aperçoit que on a réussi à atteindre la délicatesse qu'on a cherchée et qui n'est pas toujours facile à atteindre, surtout avec un sujet comme celui-ci.
Violette Bernat, il y a une gestion du temps tout à fait particulière dans votre livre, notamment cette utilisation des saisons, mais qui sont marquées par différents âges de la vie de Lou et de Yuika. Qu'est-ce que vous a permis ce choix-là?
J'avais envie que l'histoire, si elle est réaliste, s'ancre quand même dans quelque chose qui s'apparente au conte. Loup des bois, on ne peut pas s'empêcher de penser au petit chaperon rouge. Et puis ça s'arrête là, la référence ne va pas plus loin. Mais le petit chaperon rouge est quand même souvent évoqué par les militants pour les droits des enfants comme une parabole de l'inceste et que la grand-mère serait incestueuse. Voilà, quand on a cette référence en tête, donc ça fonctionne. Et les saisons, c'est un peu de la même manière pour être un peu dans un conte et puis surtout pour rappeler que les abus sexuels, quand on les vit enfant, ils laissent des traces toute la vie et qu'il faut un temps extrêmement long pour parvenir à s'en extraire ou s'en guérir, je ne sais pas, ou à même tout simplement être capable d'en parler. C'est pas rare aussi qu'il y ait des levées d'amnésie traumatiques qui arrivent très tard dans la vie, à 30, 40, 50 ans, parfois même plus vieux. Donc je voulais vraiment faire sentir le temps long avec ces saisons un peu symboliques comme ça de différents âges de la vie.
Violette Bernat, je vous propose une pause musicale avec une deuxième chanson de Melba et puis on se retrouve donc dans quelques minutes. À tout de suite.
Mes amis sont des gens des jours de pluie. Je vais me lover chez eux quand rien ne va. Je me dis j'ai là leur jeu, à leur manie. Dans leurs yeux je vois toujours un peu de joie. Mes amis sont des femmes, des nuits d'orage, qui savent serrer les rangs, se réchauffer, se défaire des vieux adages et résister. Elles n'ont pas peur de faner, de ne pas plaire. Mes amis inventent un monde dont je suis fier. Mes amis sont des hommes, des jours de rage, qui savent cueillir les larmes, offrir les leurs. Ils n'ont pas peur de se joindre à nos colères, car eux aussi ont des chaînes qu'il faut défaire. Mes amis sont des hommes qui se libèrent. Qui entre nous pour colorer, oh, tous nos jours de pluie, nos jours de rage. Mes amis sont des gens qui n'ont pas d'âge. Ils sont des soleils ordinaires. Chez eux j'irai me lever jusqu'à la fin. Et quand je regarderai en arrière, je dirai on s'est aimé et c'était bien.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Violette Bernad à l'occasion de la parution de son livre Loup des bois avec Camille Royer au dessin. Violette Bernad, vous avez avec Camille Royer choisi de mettre deux chansons que vous avez écrites associées directement au livre Loup des bois. Et c'est Melba les interprète. Alors c'est Melba Bernad, c'est donc une proche, je suppose.
Okay. C'est ma sœur.
Alors qu'est-ce qui était important dans l'écriture de ces chansons et comment ça complète l'écriture du livre et sa lecture?
Oui, ces chansons, elles sont arrivées un peu par surprise. En fait, il y avait quelque chose qui était important pour moi dans l'écriture, c'est ce moment où Lou va révéler à son amie Yulika que son oncle abuse d'elle. À ce moment-là, Lou, ce qu'elle fait, c'est qu'elle chantonne une chanson, comme pour se donner du courage, comme pour aussi se couper du monde réel. Ça ne sort pas de nulle part, hein. C'est parce que je l'ai observé chez une amie, cette façon de faire. De faire ça, de se mettre à chanter comme ça. C'est très surprenant, mais c'est une amie qui dit ça. Donc, moi, en scénariste de bande dessinée, je dois donc prévoir que mes dialogues, à ce moment-là, comportent quelques extraits de chansons. Et il me fallait donc écrire ces extraits. Je me suis retrouvée un peu en difficulté, n'ayant jamais écrit de chansons. Et du coup, le réflexe le plus simple a été d'appeler ma petite sœur Melba et de lui dire au secours, aide-moi à écrire une chanson, je voudrais en mettre un extrait dans mon livre. Elle m'a fait un petit coaching, comme elle le dirait elle-même, d'écriture de chansons, c'est hyper intéressant. Elle m'a aidée à écrire cette chanson en entier, et puis une fois que la chanson existait, elle m'a regardée et mais ça te dirait que j'en compose la musique, j'aurais pas rêvé mieux. Et de fil en aiguille, j'en ai écrit une deuxième qui ouvre chaque chapitre du livre. Et les deux chansons, après, sont reproduites. Enfin, leurs paroles intégrales sont à la fin du livre. Et un lien sous forme de QR code permet d'accéder aux plateformes de streaming, puisqu'on a enregistré des chansons ensuite. Et elles sont disponibles sur les plateformes. Elles le sont aussi pour les gens qui n'ont pas acheté le livre. Hein. C'est pas du tout un lien privé. Voilà, donc c'est arrivé comme ça. Un peu par surprise dans la création, mais finalement... sans surprise du fait que j'ai une sœur musicienne et puis aussi que j'avais préalablement travaillé depuis 25 ans dans le milieu du spectacle. Donc je crois que c'est plus fort que moi de mêler les arts et d'avoir envie de faire des œuvres pluridisciplinaires. Voilà un peu toute l'histoire de ces chants.
Sur le plan de la représentation, on sent qu'il y a des questions de dessin très fortes. Notamment sur comment représenter ce que voient les enfants du monde adulte, comment représenter cette situation d'impunité, comment représenter le temps du traumatisme. Comment s'est fait le dialogue avec Camille Royer pour répondre à ces questions ?
Est-ce que vous auriez un exemple de page ? Parce que...
Alors, l'exemple de page, par exemple, au départ, on a les jeunes, Lou et Yuika, qui rentrent dans une maison où il y a beaucoup, beaucoup d'adultes.
Oui.
Donc, il y a un regard d'enfant qui est mis en place. Il y a sur le moment où elles sont adultes aussi, où elles évoquent ensemble cette question il faut qu'il y ait réparation et la difficulté que ça représente, et aussi un moment où Lou exprime la durée. Elle dit comment. Ce traumatisme reste en permanence. Mais il y a un dessin qui est quand même très, très juste à ce moment-là, très, très précis. Et il y a cette gestion du temps évoquée tout à l'heure où, vous l'avez dit, le traumatisme est très long. Mais comment s'est fait ce dialogue avec Camille Royer par rapport à la mise en image, peut-être d'une manière plus générale ? Est-ce quelles émotions aviez-vous quand vous receviez les pages de Camille et quels étaient vos échanges ?
En général, ça fonctionne très bien avec Camille. Quand je reçois ses planches, je lui dis toujours « c'est ça, c'est précisément ça !» Elle comprend très vite mes intentions et c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. Par exemple, pour la fête au début, quand Lou et Yuika sont enfants, elles traversent une forêt d'adultes démesurément grands. Hein, et c'est volontaire. Camille a vraiment cherché à restituer ce regard d'enfant qui se faufile dans une foule d'adultes, plein d'excitation, et ils sont coupés par l'arrivée de Philippe, l'oncle agresseur. Là, elle a voulu faire sentir la peur de Lou avec juste une main qui lit son bras. Voilà, il y a des choses parfois qui relèvent de ma guidance, où je vais dire à Camille, là, ce que je visualise, c'est ça. Et puis par moments, c'est Camille qui, en toute liberté, a ses propres idées de mise en scène. Donc on est... je saurais plus dire case à case qui a eu l'idée de quoi, en fait. C'est à chaque fois... tellement de discussions et d'échanges que ça se crée à deux. Et sur le temps du traumatisme, ça c'était un souhait de Camille d'ajouter l'ombre de Philippe un peu partout dans le livre, jusqu'à la réduire à une taille minuscule à la fin. Quand Lou arrive un peu plus à contenir son angoisse, mais... Voilà, il y avait cette notion du fantôme qui est toujours présent, même s'il est plus petit, même s'il rentre dans une boîte à bonbons, il est toujours là.
Et il y a cette scène aussi où le personnage de Lou, il me semble, qui est transformée en planche de bois et qui est une façon de représenter l'inceste sans montrer l'acte. Et vous réservez d'ailleurs une relation de couple avec un des premiers amis, des premiers copains de Lou. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Plus juste d'évoquer le traumatisme par ses conséquences, en fait. Et Lou est une jeune femme comme les autres, elle tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Mehdi, et ils font l'amour, elle en a envie, et puis jusqu'à ce que, rattrapée par l'angoisse, rattrapée par son passé, elle se rigidifie, et je trouve que Camille a su très bien représenter ça, avec beaucoup de délicatesse. Cette fusion tout d'un coup des cheveux de Lou qui sont de la même couleur que le bois, qui deviennent nervures du bois, et Mehdi est dans une étreinte avec une planche, mais lui il ne s'en rend pas compte en fait. Voilà, c'est que par des truchements de ce type-là qu'on a cherché à montrer ce qui se passe dans l'affect de Lou. Il y a aussi plus tôt dans la saison de l'hiver, quand elles sont enfants, on est passé par le cauchemar. Philippe tente d'entrer dans sa chambre, il est dérouté parce qu'il s'aperçoit que Yulka dort avec elle, donc il s'en va. Et puis un peu plus tard, il y a un cauchemar qui représente deux géants qui ont des pénis à la place du nez et qui sont dévorateurs. Là, il y a clairement une référence à une peinture de Goya, où Cronos dévorant ses enfants, que certains connaissent. On voulait montrer quelque chose d'effrayant, mais Camille, en le dessinant de manière très onirique et un peu enfantine encore, ça permet de ne pas être trop choquant, mais de quand même dire les choses.
Je ne sais pas si c'est très bien que... Que peut votre livre dans cette lutte ? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça change, que ça apporte peut-être tout simplement ?
C'est le petit caillou sur le chemin hein, que chacun dépose comme on peut. Mon souhait, c'est que c'est qu'il soit lu, que les personnes qui en ont besoin parviennent à en parler à d'autres. Et puis... que petit à petit on sorte des a priori sur les abus sexuels faits aux enfants, qu'on parvienne à mieux les écouter, mieux les entendre, qu'on ne tombe pas non plus dans la caricature. C'est un très long chemin sociétal, une grande transformation qui nous attend, qui est en route, qui est en marche. Voilà, c'est une ambition. Qui reste très modeste, en fait. Et on a fait ce qu'on a pu, Camille et moi, et c'est ce qu'on a su faire, voilà. Et le fait qu'il y ait de la musique avec ce livre, c'est vraiment dans cette idée que ce livre et cette musique sont un peu comme une cabane dans laquelle on pourrait se réfugier, se sentir dans un lieu sûr, et voilà.
Je voudrais quand même évoquer la question de la couleur. Oui. Il y a beaucoup d'empathie qui se crée aussi par les ambiances colorées. Là aussi, comment êtes-vous intervenu ? Comment avez-vous réagi aux propositions de Camille ? Qu'est-ce que vous imaginiez, Violette Bernade ?
Ça, c'est aussi un traitement qu'on a imaginé assez tôt dans l'écriture. Au départ, Camille avait fait des essais sur le démarrage du livre quand elles sont enfants en hiver, de façon plus traditionnelle, un peu multicolore. Et puis, on a assez vite évoqué l'idée que chaque saison pourrait avoir sa teinte. Et c'est l'option qu'on a gardée. L'hiver est dans les teintes de bleu-gris, le printemps, sans surprise, est plutôt vert. l'été, donc elles sont jeunes et jaunes, jaunes brûlants, puis l'automne est un peu plus réaliste, et tant plus, il sort un peu du conte, il revient un peu plus vers le réalisme, voilà. Et ça, c'était vraiment une idée ouais, qui est venue assez tôt. C'est un livre qui a pris beaucoup de temps à se faire. Il y a eu un moment où Camille avait oublié qu'on avait pris cette option. Le livre, on l'a créé entre 2021 et 2026, sa sortie. Les planches finales ont été envoyées au début 2026. Donc c'est un livre qui a pris 5 ans à se faire. Et il ne fallait pas perdre de vue nos intentions en cours de route. Il y a eu une longue pause parce que Camille a eu un accident. Elle a dû arrêter de dessiner pendant un moment. Heureusement, elle a pu retrouver sa dextérité et reprendre le travail. Et voilà, ces couleurs, en fait, ça participait du fait qu'on voulait, cet aspect un peu irréel, tout en étant quand même dans un monde réaliste. On est un peu à la frontière entre les deux, je dirais.
Merci beaucoup, Violette Bernade. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc, Loup des Bois avec au dessin Camille Royer. C'est publié par les éditions Futuropolis. Les 184 pages de votre livre ont été imprimées en France. Je n'ai pas le prix parce que je n'avais que le PDF.
25 euros.
Merci beaucoup et très bonne continuation à votre livre et à ce duo avec Camille. Et on finit avec le troisième titre que vous avez choisi. Au revoir, bonne continuation.
Je suis la branche qui ploie sous le poids de la neige, sous mes longs bras tu chantes. Jour rouge, larmes gelées, ton rayon cascade reviendra un jour. Je sais te consoler, petit flocon salé. À sa bouche, le calvaire s'arrêtera, mes petites loups, je ne suis pas pour toi. Des secrets, que le soleil a oublié, se cache des secrets, que le soleil a oublié. Dans tes failles, pense à revenir te lover. couvert au sauvage
Le dernier livre dont je voudrais vous parler est « Tourner la page » de Zepp. Alors Zepp est connu pour Titeuf, c'est quand même un succès planétaire. Mais c'est aussi un artiste qui a une œuvre réaliste avec plusieurs récits et qui à chaque fois vont utiliser un autre dessin, un autre style, et je dirais même d'autres au pluriel styles, pour utiliser cette veine réaliste de son écriture. Tourner la page continue, poursuit, met en place une autre forme de dessin, avec notamment une aquarelle très sensible et une représentation très fine de chacun des personnages, de chacune des expressions, de chacun même des mouvements, des regards. 16 ans après avoir remporté le prix Femina pour Le Voyage parallèle, l'écrivain Lambert Delville disparaît tragiquement dans la mer Égée. C'est un drame national, les ventes de ce livre s'envolent, les hommages pleuvent, son éditrice célèbre sa mémoire, un grand auteur ne meurt jamais, ces mots sont éternels. Cette disparition n'en est pas vraiment une et Zepp va mettre en place un récit parfaitement ficelé, maîtrisé, avec des situations qu'on l'on sent inédites, qui ne rappellent pas telle ou telle autre fiction, où Zepp va vraiment jouer avec le nouveau statut de Lambert Delville qui finalement se retrouve dans un paradis, une sorte d'île paradisiaque où il coule des jours heureux. Et puis en fait, il va y avoir bien sûr la perturbation dans le récit. C'est Jan Polis qui va porter des informations comme quoi ce serait lui qui aurait écrit les œuvres de Lambert Delville, qui était son assistant et qui, comme c'était plutôt quelqu'un de feignant, eh ben, lui laissait une importante place pour l'écriture. C'est une révélation auquel assiste depuis son île paradisiaque Lambert Delville et toute la mécanique s'écroule. Zepp tire parfaitement les ficelles de cette intrigue, va parfaitement doser ce qui relève de la révélation et ne pas faire non plus de cet élément perturbateur quelque chose qui devienne tout à coup spectaculaire. C'est tout parfaitement maîtrisé et il y a déjà dans l'écriture et dans le récit lui-même, une épaisseur qui est importante, intéressante, puissante en elle-même. Mais il y a le dessin. Il y a le dessin de Zepp également, qui est un dessin où il est réaliste. Réaliste au sens où il va s'attacher au personnage. Il va vraiment dessiner, et c'est toute la difficulté de la bande dessinée, d'avoir cette nuance dans les expressions du visage. Au cinéma, vous avez juste un petit mouvement de lèvres et ça indique des émotions spécifiques. En bande dessinée, le petit mouvement de lèvres, déjà, il faut le voir vu la taille des cases. Et pourtant, Et pourtant, la qualité du dessin va permettre aussi d'avoir ces nuances dans la représentation. Il faut effectivement qu'il y ait une base solide, qu'il n'y ait pas de simplification du trait, qu'il y ait une sorte d'attachement à la physionomie d'ensemble, à la silhouette, à la gestuelle, et ainsi de travailler aussi sur les nuances des expressions de visage. Tout au long de ces récits, ces nuances vont être mobilisées. On va avoir toutes les évolutions de Lambert Delville qui va passer de l'écrivain finalement récompensé par la gloire tout simplement parce qu'on le croit mort, alors que ses écrits, dès le départ, ne montrent pas spécifiquement une grandeur littéraire, et tout se met parfaitement en place. Il y a aussi, qui ajoute à cette qualité du dessin, c'est le travail du décor. Zepp va utiliser, bien sûr, les qualités de son dessin réaliste pour suggérer des éléments de décor qui vont vraiment permettre de contextualiser en permanence la situation du récit, le contexte du récit. Ça va vraiment nous permettre, nous lecteurs, d'être au plus près des lieux. On a l'évocation d'une bouche de métro, les escaliers, les décors, les toits de Paris. Mais à chaque fois, Zepp ne s'appuie pas sur ces détails, va juste leur donner la présence nécessaire pour que le récit soit toujours, toujours dans cette crédibilité, dans cette vraisemblance. Et c'est cet ensemble, à la fois cette aquarelle qui va permettre de jouer sur les différentes lumières, celle de Paris, celle des îles, celle de la mer, celle d'un plateau télé, celle d'un flashback qui va se retrouver avec des teintes de bleu. Et à chaque fois, cette précision ajoute à la force de l'écrit. C'est une incontestable réussite qui montre l'attention, l'enthousiasme que Zepp a à écrire, à découvrir jusqu'où son écriture dessinée peut le porter, jusqu'où la bande dessinée est capable d'inventer de nouvelles variations sur son écriture. Et tourner la page va être aussi une étape, peut-être dans la carrière de Zepp. En tout cas, au niveau de la bande dessinée, il y a cette précision de l'écriture, tout en ayant ce côté très intime, plein de nuances, qui montre que la bande dessinée est une des grandes écritures contemporaines, et ça fait toujours plaisir de le lire. Tourner la page de Zepp est publié par les éditions Rue de Sèvres. Alors, les 80 pages de ce livre sont au prix de 20 euros. Je vais même vous dire où il a été imprimé, si tout va bien. Je crois que c'est en Belgique. C'est important toujours le lieu d'impression. Merci Fabien pour cette technique. On se retrouve la semaine prochaine. La fin de la saison s'approche. Il y aura donc encore quelques invités à découvrir d'ici la grille d'été. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.